Le tombeau est vide. Il est ressuscité. C'est ce que nous célébrons à Pâques. En tout cas, un tombeau vide. Et c'est la grande nouvelle que tous les chrétiens du monde entier proclament aujourd'hui. Le tombeau est vide. Et c'est même la raison pour laquelle la grande majorité des chrétiens, des croyants, se réunissent le dimanche, puisque le Christ est ressuscité un dimanche matin. Pourtant, dans le récit qui a été lu par nos frères dans l'évangile selon Jean, Marie Madeleine se retrouve en larmes devant le tombeau vide. Pierre et Jean, quant à eux, se sont barricadés dans une maison fermée à double tour. Parce qu'ils avaient peur des chefs religieux. Alors la question, c'est toutes ces personnes, ont-ils bien compris ce qui s'était passé? Est-ce qu'ils ont bien compris les implications d'un tombeau vide, laissé vide par Jésus-Christ? Et la scène est assez paradoxale avec ce que nous vivons aujourd'hui, dimanche Pâques. Nous proclamons cela avec joie, avec force. Le tombeau est vide. Nous sommes tous en joie, nous manifestons cette joie dans nos célébrations. Mais quelle est cette joie vraiment? Est-ce une joie de façade? Est-ce une joie de circonstance qu'on ferait éclater le dimanche matin et puis juste après, le lendemain, en allant au boulot, on remet notre tristesse au gré du jour? Est-ce ça la joie que nous ressentons en ce moment? Ou est-ce autre chose? La joie de Pâques ne doit-elle pas nous porter même dans les jours les plus sombres de notre vie? Et Dieu sait que nous passons parfois par des moments difficiles dans notre vie. Des situations compliquées qu'on n'imaginait pas lorsqu'on était tout petit, grandissant. Et pourtant, on les vit. Malgré ce que je viens de dire, malgré le portrait que je dresse selon l'évangile de Jean, de nos protagonistes, Marie, Pierre et Jean, ceux-là vont découvrir une joie profonde. Ils vont découvrir notre type de joie. Et cette joie va même s'installer durablement dans leur vie. De quelle façon? Poser la question. Mais le texte suggère deux étapes primordiales à cette joie profonde. D'abord, au verset 8, il nous est dit que Jean vit, en se penchant, en regardant dans le tombeau, il nous est dit qu'il vit et qu'il crut. Pourtant, au verset 10, on voit qu'avec Pierre, il retourne chez lui tranquillement, comme si de rien n'était, comme si l'événement du tombeau vide et la croyance que ça a suscité chez lui n'avait eu aucun impact sur lui. Quel paradoxe, n'est-ce pas? Entre le tombeau vide et puis l'attitude à l'égard de ce tombeau vide. Le verset 9 vient nous éclairer sur cette observation. Pourquoi ont-ils réagi comme ça? Parce que, nous dit le verset 9, ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Ils n'avaient pas compris ça. Jean a vu le tombeau vide, il a vu le linge qu'on a mis sur la tête de Jésus. Il a cru, mais vraisemblablement, ce qu'il a cru n'a pas été suffisant pour bouleverser sa vie. Peut-être qu'il croyait, comme la plupart des Juifs de son époque, effectivement que Jésus ressusciterait, mais pas aussitôt quand même, peut-être à la fin des temps, mais pas 3 jours après. Il ne s'attendait pas certainement à ce que Jésus revienne aussitôt. Et ce qui venait de se produire lui a échappé complètement. Complètement. Ils n'ont pas saisi l'événement de la résurrection. Le verset 9 signale que c'est par le biais de l'Écriture uniquement qu'on pouvait comprendre que la résurrection de Jésus ne pouvait pas être un événement commun, un événement quelconque. Ce devait être quelque chose qui dépasse l'entendement humain, quelque chose de surnaturel qui devait marquer l'intervention de Dieu auprès des humains. Nous qui possédons la parole écrite de Dieu, ce que Jean, Pierre, Marie n'avaient pas. Nous qui l'avons, que nous dit-elle de la résurrection de Jésus? Je nous propose deux textes. Romains chapitre 6, verset 9. Déjà un petit verset. Qui nous dit que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La résurrection de Jésus n'est pas n'importe quelle résurrection. Elle n'est pas comme celle qu'a vécu le fils de la femme de Sarepta. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, cette femme qui, dont son fils est décédé, qui a fait appel au prophète Élie. La résurrection de Jésus n'est pas non plus comme celle de la fille de Jaïrus. Elle n'est pas non plus comme celle de Lazare. Parce que toutes ces personnes que j'ai mentionnées sont bien morts. Ils sont revenus à la vie, mais aujourd'hui ils sont décédés. La résurrection de Jésus, dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et je le disais tout à l'heure, dans notre monde, il ne nous est pas possible de comprendre la vie sans la mort. L'une ne va pas sans l'autre. Et même, certes, parfois, les bébés qui viennent à naître, meurent l'instant d'après. Certains n'arrivent pas à voir le jour. Certains d'entre nous arrivent à vivre très longtemps, proche de la centaine. Mais la résurrection de Jésus est quelque chose de tout autre. La vie dans laquelle Jésus est rentré par sa résurrection est d'une autre réalité, d'un autre monde, d'une autre qualité. C'est une vie sur laquelle la mort n'a plus d'emprise, n'a plus de pouvoir, nous dit le texte de Romains chapitre 6. C'est une vie qui vient d'ailleurs, une vie qui a sa source en Dieu lui-même. C'est pas n'importe quelle vie. Et cette vie-là, après cette résurrection, témoigne d'une vie qui dure pour l'éternité, éternellement. C'est une vie qui change les choses, mais radicalement. Une vie nouvelle, une vie supérieure, sans aucune commune mesure avec ce que nous pouvons vivre et expérimenter aujourd'hui. Un autre texte qui nous dit ce qu'il faut entendre par la résurrection de Jésus-Christ. En 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, un seul verset encore. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, nous est-il dit. Le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Rien à voir. Ou comme le dit une autre traduction plus explicite, le dernier Adam est devenu un esprit qui communique la vie, qui donne la vie. Alors, que faut-il comprendre ici? Eh bien, qu'en ressuscitant, en entrant dans cette vie nouvelle, Jésus est devenu celui qui communique sa vie de ressuscité. Un ami pasteur disait à ce sujet que Jésus est devenu contagieux. Il nous touche, on devient vivant. On devient un être en vie. Tant qu'on n'a pas reçu ce toucher du Christ, on est comme des morts vivants, errant ça et là dans cette vie présente. Et dans cette vie présente, on dit qu'une femme, quand elle met au monde un enfant, on dit qu'elle donne la vie. Et figurez-vous que c'est le seul moyen que nous avons, hein, de donner la vie. Mais ça s'arrête là. Et même la vie qu'elle donne, c'est une vie limitée. Ce n'est pas un CDI. La durée déterminée. Et seul Dieu sait quelle est la longueur de chaque vie humaine. Si vous touchez un cadavre, il ne revient pas à la vie. Parce qu'on ne peut pas communiquer la vie. La vie actuelle n'est pas contagieuse, mais la résurrection de Jésus témoigne d'un monde où la vie est tellement contagieuse que la mort, la maladie, n'a aucun droit de cité, n'a aucune place. Jésus lui-même disait, « Je suis la vérité et la vie. » Pas de place pour la mort. Il est ressuscité une fois pour toutes. Et vous savez quoi? Jésus veut nous communiquer cette vie extraordinaire. Cette vie qui n'a plus la mort comme horizon. Il veut nous la communiquer. Il suffit juste de nous laisser toucher par lui. Et donc l'Écriture nous apprend que la résurrection de Jésus témoigne d'un miracle extraordinaire. Jésus est rentré dans une vie tout autre, une vie de qualité nouvelle, qui dépasse de très loin la qualité de la vie présente. Aujourd'hui, nous tombons malades, très malades parfois, nous mourons. Et si nous sommes croyants, nous avons cette espérance qu'un jour, Jésus reviendra et puis il nous ramènera à la vie. Mais entre-temps, cette mort, cet ennemi, et la Bible le décrit comme un ennemi, eh bien, elle nous fait souffrir. Terriblement même. Elle nous arrache nos proches, nos êtres bien-aimés. Mais Jésus est celui qui vient communiquer une vie nouvelle, une vie à durée indéterminée, une vie pour toujours. C'est une vie qui vient directement de Dieu, une vie dont Dieu seul est la source qui ne tarit jamais. Jésus venait nous la communiquer. Et telle est la bonne nouvelle de Pâques, c'est ce que nous célébrons lorsque nous célébrons Pâques. Nous disons que cette vie que Jésus a acquise pour nous est une vie tout autre, sans aucune commune mesure avec ce que nous vivons aujourd'hui. Pour autant, il ne suffit pas de comprendre le miracle que nous raconte l'Écriture. Il y a autre chose d'essentiel. Dans notre passage, il va se passer quelque chose de vraiment déterminant. Pour Marie, pour Pierre, pour Jean et pour les autres disciples. Marie et les autres disciples, ils vont rencontrer le Christ ressuscité. Et cette rencontre va tout changer, va tout basculer. Rappelez-vous, Marie est dans le jardin, elle voit un homme qu'elle prend pour le jardinier, mais quand celui-ci l'appelle par son nom, Marie, verset 16, elle se rend compte que c'est Jésus. Alors tout change. Sa vie change dans ce jardin, là, tout de suite. Sa vie change. Parce que, tout simplement, Jésus est venu la rencontrer, là où elle était. Les disciples aussi vont faire cette expérience de la rencontre qui va bouleverser leur vie. Eux qui s'étaient terrés dans une maison fermée à double tour parce qu'ils avaient peur des chefs religieux, Jésus arrive, sans qu'on ne sait comment, il se retrouve dans la pièce. Pourtant, les portes étaient fermées. Verset 19 dit que Jésus entre dans cette maison, toute porte fermée, et qu'est-ce qu'il dit en arrivant ? Que la paix soit avec vous. Alors la joie remplit leur cœur, verset 20. Parce que le Seigneur ressuscité est venu à la rencontre de ses disciples. Que la paix soit avec vous. Il y a quelque chose que je répète tout le temps, même dans mon foyer. S'il y a quelque chose que je chéris par-dessus tout, c'est la paix de mon esprit. Donc tout désagrément qui pourrait venir à côté, ne m'embête pas. Parce que Jésus vient, il me dit que la paix soit avec toi. Et moi, je saisis cette paix. Je ne sais pas pour vous. Hein. Si vous vous laissez harceler par les déboires de la vie, mais je veux saisir cette paix. Que la paix soit avec vous. Jésus vient à notre rencontre et nous apporte cette paix. Voilà ce qui transforme la vie de Marie, de Pierre, de Jean, ainsi que tous les autres disciples présents dans la maison. Ces personnes ont fait cette rencontre. Ils ont rencontré Jésus. Le ressuscité est venu à leur rencontre. Et pour recevoir cette vie nouvelle et entrer dans la joie de Pâques, il faut avoir vécu cette rencontre avec Jésus-Christ, avec le Christ ressuscité. Il faut rencontrer celui qui communique cette vie nouvelle. Sans quoi, on est dans notre désordre, on est dans nos peurs, nos craintes. Parce qu'on n'aura pas cette paix, on n'aura pas vécu cette rencontre qui communique la vie du Christ. Et je le dis, cette rencontre est encore possible aujourd'hui. Elle n'a pas été uniquement pour les disciples à l'époque de Jésus-Christ. Elle est encore possible. Il est encore possible de rencontrer le Seigneur. Aujourd'hui même, maintenant, tout de suite, c'est possible. C'est possible de recevoir cette vie nouvelle, maintenant, tout de suite. C'est possible de recevoir sa paix, maintenant et tout de suite. Jésus nous dit, comment ? Un peu avant de mourir, il dit à ses disciples, « Je prierai le Père » en Jean chapitre 14, versets 16 à 19, « Je prierai le Père » et il vous donnera un autre consolateur. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Il sera en vous. Mais quelle grâce, les amis, en nous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Il veut nous rencontrer. Et puis il dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous aussi vous vivrez. Le Seigneur a promis qu'il viendrait à notre rencontre à travers l'Esprit Saint pour nous communiquer sa vie de ressuscité. Je vis et vous vivrez aussi. Au verset 22, le texte nous dit que lorsque Jésus rejoint ses disciples dans la maison, alors que les portes étaient fermées, il leur dit « Recevez l'Esprit ». Comme pour dire le rôle de l'Esprit essentiel, hein, pour plus tard, pour la suite. Alors le texte précise que Jésus souffla sur eux. Un truc qui a beaucoup fait parler, hein. Un petit peu mystérieux quand même. Jésus qui souffle sur ses disciples et qui leur dit « Recevez l'Esprit », j'avoue que ça interpelle, ça interroge. Mais ce verbe traduit par « souffler » ne se trouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Ici. Jean le reprend de la traduction grecque de l'Ancien Testament, hein, ce qu'on appelle la Septante. On le trouve d'abord en Genèse chapitre 2, verset 7, où il est dit, après avoir créé l'homme de la poussière du sol, Dieu souffla dans ses narines, il est dit, une haleine de vie. Il apparaît encore en Ézéchiel chapitre 37, verset 9, lorsqu'il est dit « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, l'Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils vivent. » Et donc si Jean reprend ce verbe très rare, c'est pour dire que Jésus, en soufflant sur ses disciples, leur communique la vie. Comme Dieu dans le jardin d'Éden, comme le Saint-Esprit qui refait vivre les morts dans la vision d'Ézéchiel, Jésus, en donnant son esprit, communique la vie. Et pas n'importe quelle vie. La vie qui vient de Dieu, une vie de résurrection. Le dernier Adam est venu, un esprit qui communique la vie. Pas n'importe laquelle. Une vie de qualité, une vie d'abondance, une vie éternelle. Lorsque le Christ nous rencontre par l'Esprit, l'horizon de notre vie ne s'arrête pas à la mort. On n'a plus la mort pour perspective. Il s'étend bien au-delà, jusque dans l'éternité. Autrement dit, sa vie se répand sur nous, il déverse cette grâce sur nous. Et nous pouvons dire comme Paul en Galates chapitre 2 verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même si nos corps s'usent et la fatigue nous tape dessus jour après jour, notre être intérieur se renouvelle, lui, jour après jour. C'est 2 Corinthiens qui le dit. La vie que le Christ ressuscité communique est comme une source intarissable, un renouvellement perpétuel. Voulez-vous rencontrer cet homme qui communique la vie? Cette rencontre avec le Christ ressuscité, voilà ce qui nous permet d'entrer dans la joie de Pâques. Une joie qui, elle aussi, doit se communiquer, se partager. Et si nous rencontrons le Christ ressuscité, nous ne restons pas à pleurer devant un tombeau vide. Non, comme Marie, nous courons partager la bonne nouvelle. Et comme les disciples, nous ne restons plus tirés dans une maison fermée à double tour. Non, nous sommes envoyés pour l'annoncer à tous. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Amen. Il est vraiment ressuscité. Il vit pour toujours. Il a inauguré la vie nouvelle, une vie de qualité, une vie qui dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer. Et par son esprit, il vient à notre rencontre. Si nous le désirons, bien sûr, il peut passer. Si nous ne l'invitons pas. Mais il veut communiquer cette vie. Telle est la grande nouvelle de Pâques. Tel est ce qu'il veut nous faire vivre et ce qu'il veut nous faire partager également. Amen.